Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, à ma montre cassée, il devrait être environ 20h. Soyez les bienvenus dans ce numéro un peu particulier d'Open Buy. Nous avions enregistré cette émission, que vous allez entendre, le 16 décembre dernier. Et oui, le temps passe vite, pour une diffusion initialement prévue le 2 janvier 2020. Mais un pépin technique dans la programmation a empêché la pleine diffusion de l'émission sur le 101.2. Nous nous en excusons. Nous vous proposons donc ce soir d'écouter ou de réécouter cette émission exceptionnelle, amputée des quelques phrases un poil anachroniques où l'on vous souhaite la bonne année. Très belle émission à vous et je vous retrouve tout à l'heure. Ici à Grenoble, la montagne, ça vous gagne. Alors que diriez-vous de venir avec nous, prendre de la hauteur, respirer, prenez un grand bol d'air avec l'expédition 5300 qui nous emmène au Pérou, dans la ville la plus haute du monde, la Rinconada, à 5300 mètres d'altitude. Pour la première fois, des scientifiques du monde entier se sont rendus dans cet endroit unique au monde pour comprendre comment vivre avec moitié moins d'oxygène qu'en pleine. Ce soir, nous sommes très heureux de recevoir le responsable de l'expédition, Samuel Vergès, et l'invité du 7e épisode d'Open Buy sur News FM. Bonsoir Samuel.
Bonsoir.
Comment ça va ?
Très bien, merci.
Alors Samuel Vergès, vous êtes chercheur INSERM au sein du laboratoire hypoxie et physiopathologie cardiovasculaire et respiratoire HP2. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques phrases en quoi ça consiste ?
Oui, voilà, c'est plein de mots compliqués, hein, mais globalement, mon métier, c'est donc de chercher, c'est-à-dire de répondre à des questions qui aujourd'hui n'ont pas de réponse, et ce, en particulier dans le domaine de l'hypoxie, c'est-à-dire de l'oxygène, et en particulier des situations où on manque d'oxygène. Donc on a besoin d'oxygène, nous autres, pour vivre, et on étudie comment on peut arriver à vivre quand même avec un petit peu moins d'oxygène, comme lorsque l'on est en altitude.
Lorsqu'on est en altitude, lorsqu'on a aussi des maladies respiratoires, notamment.
Voilà, tout à fait.
Alors, Samuel Vergès, vous n'êtes pas encore très connu peut-être de nos auditeurs. Comme pour tous nos invités, pour mieux vous connaître, on vous propose un petit portrait chinois. Vous connaissez le principe ?
Plus ou moins.
En gros, on va te poser des questions, par exemple, si t'étais une ville, un livre, etc. Et voilà, du coup, on va apprendre un peu de ta personnalité de ce point de vue-là. T'es prêt ?
Allez, c'est parti.
Si tu étais un livre ?
Un livre ? Le Courrier International, tiens. Le journal Courrier International, avec plein d'articles à travers le monde.
Et ça parle de quoi, précisément ?
C'est des articles de journaux qui ont été publiés à travers le monde, dans différents pays, qui sont regroupés là. Et donc, ça permet d'avoir une vue du monde entier, de ce qui se passe à travers le monde entier, avec différents points de vue.
D'accord. Si tu étais un personnage de fiction ?
Peut-être, on pourrait dire... moi, je suis pas très bon en film, mais... on pourrait dire un explorateur. Un explorateur.
On s'en doute un peu. j'avais demandé, mais si tu étais un sport, mais...
Ah, j'aime bien skier en montagne, skieur peut-être.
Skieur, t'as fait du biathlon, je crois.
Oui, voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Oui, voilà, j'ai fait beaucoup de ski et c'est vrai que c'est quelque chose qui est important dans ma vie encore maintenant.
Si tu étais une chanson.
Alors, j'aimerais bien être une chanson à parole, plutôt, un parolier français, voilà, comme peut-être on entendra pendant l'émission.
Absolument.
Sûrement. Si tu étais un animal.
Ah, alors là, c'est à moi de vous poser une question. Si j'étais un animal, j'aimerais bien être un isard. Mais vous savez ce que c'est un isard ?
Vous allez nous le dire.
Tu vas nous le dire, Samuel. Eh bien, un isard, c'est un vrai chamois. C'est un chamois des Pyrénées.
Ah.
Je dis ça parce que je suis pyrénéen, alors on est un petit peu fiers et on dit que les isards et les chamois, alors c'est vrai que c'est quasiment la même chose, mais on dit que les vrais, c'est quand même les isards.
Je vais laisser l'honneur à Mine de poser la question qui.
Si, si, je suis un peu gêné parce qu'on a quand même une sommité scientifique avec nous dans son domaine. Samuel, si tu étais un gros mot, et il faut tout dire.
Hein. Un gros mot.
Mais il y a un stagiaire de 3e à côté, Nolan.
D'accord.
Mais tu n'aies pas peur, n'aie pas peur.
Il y en a un des fois quand j'ai quelque chose qui me surprend, je dis shit.
Qui signifie bien évidemment crotte en anglais.
Voilà.
Si tu étais un super pouvoir.
Un super pouvoir, par exemple, se déplacer d'un endroit à l'autre spontanément.
Une téléportation, tu veux dire ?
Voilà, téléportation.
Dans la montagne ?
Par exemple, ou à travers le monde.
D'accord. Si tu étais une émotion ?
La joie, c'est quand même une des plus belles émotions qu'on a à vivre.
C'est vrai. Amine, je te laisse faire le dernier.
Qu'est-ce qu'on en a beaucoup fait. Si tu étais une mauvaise habitude, tiens.
Pressé, parce que des fois, je le suis trop et voilà.
Trop impatient.
Trop pressé, voilà, ouais.
D'accord.
Pas savoir prendre suffisamment le temps.
Et bien, en tout cas, tu as très bien répondu au portrait chinois et ça nous a permis ainsi de se tutoyer. Donc, on va continuer comme ça dans toute l'émission.
Ça marche.
On va revenir un peu plus en détail sur la démarche qui t'a conduit et qui vous a conduit, toi, et l'expédition scientifique, à cette expédition scientifique 5300, à partir dans la ville la plus haute du monde, la Rinconada, au Pérou, 5300 mètres d'altitude. Alors déjà, on l'évoquait un petit peu dans le portrait chinois, tu es un amoureux des montagnes.
Oui, tout à fait. Alors j'ai même grandi, je suis né dans les montagnes pyrénéennes et j'ai choisi aussi de travailler maintenant à Grenoble parce que c'est quand même une ville incroyable au milieu des montagnes.
Est-ce que c'est pour ça que tu t'es intéressé à l'hypoxie qu'on évoquait tout à l'heure ?
Oui, tout à fait. Moi, j'ai grandi à 1800 mètres d'altitude. Mon père était guide de montagne, donc j'ai passé ma jeunesse dans les montagnes. Et c'est vrai que de comprendre comment on le sent en fait dans notre corps quand on est en montagne, qu'il y a quelque chose qui est différent, c'est pas seulement que c'est pentu, c'est qu'on sent que la respiration est plus difficile. Ouais. Et puis peu à peu, je me suis intéressé au fait que l'air qu'on respire dans la montagne, il est un petit peu différent de l'air de Grenoble.
Et parce qu'il y a moins d'oxygène.
Exactement, donc c'est ce fameux gros mot, l'hypoxie, c'est-à-dire c'est une condition où il y a moins d'oxygène et nous, on a besoin d'oxygène pour vivre et quand il y en a moins, on le sent.
Alors je crois que ça fait plus d'une dizaine d'années que tu travailles justement sur ces problématiques-là.
Tout à fait.
Et tu étais déjà parti en expédition en 2011 dans le massif du Mont Blanc, puis à 4300 mètres, c'est pas mal, puis 4 ans plus tard dans l'Himalaya, où tu avais fait comme ça une batterie de tests à des volontaires, à des trekkers, dans des conditions d'altitude extrêmes.
Voilà, tout à fait. Donc en fait, on utilise l'altitude pour voir quel est l'effet d'avoir un petit peu moins d'oxygène sur notre organisme. Et pour aller en altitude, eh bien, bon, nous, dans les Alpes, on est déjà quand même pas mal bien placés avec le Mont Blanc, 4800 mètres. Et puis juste en dessous du Mont Blanc, donc à 4300 mètres, on a un petit lieu de recherche, en fait, un observatoire de recherche, où on peut aller faire des expériences, donc 4300 mètres. 4300 mètres, c'est déjà très haut. Mais on a voulu aller plus haut. Et donc, on est allé, de fait, en 2015, dans l'Himalaya, où là, on est monté avec tout un tas de volontaires qui ont bien voulu être cobayes, comme on dit, pour nos études, jusqu'à plus de 5000 mètres d'altitude.
5000 mètres d'altitude. Et 4 ans plus tard, la Rinconada, au Pérou. Alors, pour ma part, je ne connaissais pas cette ville avant d'entendre parler du projet. Est-ce que tu la connaissais ? Comment est-ce que ça a été ?
Ouais. Alors, c'est vraiment une ville. De fait, ce n'est pas le Pérou. Des fois, on dit ouais, c'est le Pérou, hein, en disant les super belles vacances au Pérou. Mais là, là, quand on va dans cette ville-là, ce n'est pas du tout pareil. C'est une espèce de bidonville que personne ne connaît. Longtemps, quand on croisait un Péruvien, que je lui disais avant d'y aller, ah, je vais aller au Pérou, je vais à la Rinconada, il y avait deux types de réactions. Soit les Péruviens, ils me disaient jamais entendu parler de ça, donc même eux, ils ne connaissaient pas. Soit ils me disaient quoi, la Rinconada, mais c'est l'enfer. Comme ça qu'ils me le présentaient. Donc, de fait, c'est une ville pas du tout connue et très rude en altitude. Ouais.
Alors, justement, comment est-ce que tu en as entendu parler ? Comment est-ce que ce projet-là a été initié ?
Donc, à la fois, donc, c'est très peu connu, et à la fois, lorsqu'on lit des livres sur l'altitude, on sait que là où il y a les habitants qui vivent le plus haut au monde en permanence, eh bien, c'est au Pérou et dans cette ville de la Rinconada. Donc, on sait depuis très longtemps, parce que les Incas étaient dans cette ville qui est en fait une mine d'or, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui habitent si haut. On sait qu'il y a des gens qui habitent très très haut, mais jusque-là, on ne savait pas exactement comment ils faisaient. Et puis, il y avait très peu de blancs ou de non-locaux qui étaient allés là-haut. Donc, on savait que cette ville existait, mais comment les gens arrivent à y vivre à une telle altitude, ça, on ne savait pas encore.
On ne savait pas encore. Et avec ton expérience, on le sait.
Voilà, on essaye de comprendre. Donc, on y allait en 2019 une première fois pour voir déjà comment les gens sont capables de vivre à une telle haute altitude. Alors, 5000 mètres, à la fois, il y a des gens qui grimpent l'Everest ou plus haut encore. Mais ils montent et ils redescendent, des alpinistes. Alors que là, la spécificité, c'est que c'est des gens qui habitent en permanence, toute l'année, toute leur vie, à une telle altitude. Et ça, normalement, on pensait que l'homme ne pouvait pas vivre au-dessus de 5000 mètres en permanence.
D'accord. Et en fait, c'est en ça que ça diffère des expériences précédentes dans l'Himalaya et au Mont Blanc.
Exactement.
C'est des populations qui vivent en permanence.
En permanence, voilà.
Avec donc une génétique peut-être qui est différente.
Probablement, c'est-à-dire qu'ils y vivent en permanence et ils y vivent depuis des générations, des milliers, même des dizaines de milliers d'années. Donc cet environnement avec moins d'oxygène a transformé leur corps. Nous, quand on monte en altitude et qu'on redescend, on le sent un peu, puis on redescend dans des conditions normales, ça n'a pas changé notre corps. Alors qu'eux, ils y sont depuis des milliers d'années et donc ils ont un organisme un peu différent du nôtre.
Est-ce que au moment de... Vous avez... Avant de partir en tout cas... Est-ce que vous aviez des hypothèses que vous souhaitiez confirmer ou infirmer ? Ou est-ce que vous étiez vraiment parti dans l'idée de faire des tests et de voir ce que ça donne ?
Alors, on avait un petit peu une idée de ce qui se passe chez des gens qui habitent en permanence en altitude, alors pas si haut, mais on savait par exemple que ces gens-là, ils ont beaucoup, beaucoup de globules rouges dans le sang. Donc, dans le sang, on a des petits transporteurs de l'oxygène. Et on sait que chez ces gens qui habitent en permanence en altitude, mais c'est déjà vrai pour des gens qui habitent sur le Vercors ou à Champs-Rousses, on en a un petit peu plus de ces transporteurs de l'oxygène, de ces globules rouges. Et donc, on s'attendait à ce que chez les gens qui habitent à 5000 mètres d'altitude, que là, il y en ait énormément. Donc ça, c'était une des hypothèses et c'est vrai qu'on n'a pas été déçus.
Oui, on en reparlera tout à l'heure. Et du coup, l'enjeu principal de l'expédition, pour toi, c'était quoi ?
Alors, c'était comprendre, d'une part, comment l'homme peut vivre à plus de 5000 mètres d'altitude, alors que jusqu'à présent, on pensait que ce n'était pas possible. Quels sont les mécanismes d'adaptation qui ont été développés chez ces habitants-là ? Mais on sait aussi, on avait entendu dire que parmi ces habitants, même s'ils sont là-haut depuis des milliers et des milliers d'années, qui sont assez bien adaptés, il y a aussi toute une partie de cette ville de la Rinconada où il y a des gens qui sont malades du fait du manque d'oxygène. Donc, le deuxième objectif, c'est de comprendre pourquoi certains ont l'air de bien tolérer et pourquoi d'autres sont malades de ce manque d'oxygène.
Et au-delà de l'aspect scientifique, il y a aussi un aspect humanitaire. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Voilà, et donc c'est vrai que quand on a un projet de recherche, un projet médical dans une population qui est très fragile comme ça, qui est vraiment dans le besoin, hein, certes la connaissance, la science, c'est bien, mais quand même on a rapidement envie de pouvoir aider ces gens-là, que ce soit du point de vue de la santé, mais aussi quand on croise des enfants dans la rue qui n'ont pas vraiment d'école, etc., on a envie de faire quelque chose. Donc du coup, on a associé à notre projet scientifique un projet plus humanitaire où on espère un petit peu, avec nos moyens, aider la population de la Rinconada.
La population qui n'a pas vraiment de relation avec, il n'y a pas très peu de médecins, il n'y a pas forcément de milieu.
Voilà, c'est très très isolé. Alors à la fois, c'est une énorme ville, hein, c'est 50 000 habitants à plus de 5 000 mètres d'altitude, mais qui sont très loin de tout. C'est pas non plus des gens, bien sûr, qui ont des voitures, etc. De toute façon, les routes, il n'y en a pas vraiment non plus. Donc ils sont complètement isolés et il n'y a pas d'hôpital, il y a quelques écoles, mais ils ne voient quasiment jamais un médecin. Donc c'est une ville et une population complètement isolée. Ouais.
Alors il faut expliquer pourquoi cette ville existe. Cette ville, elle existe parce qu'à côté, il y a une mine d'or.
Voilà, donc toute la raison d'être de cette ville et pourquoi les gens sont là-haut, c'est parce que depuis les Incas, on sait qu'il y a pas mal d'or dans les sous-sols, on est juste sous les glaciers, et donc les habitants, les Péruviens locaux creusent pour trouver de l'or, et s'il n'y avait pas l'or, autant dire qu'ils n'habiteraient pas là, parce qu'ils sentent bien que c'est dur pour leur organisme, donc s'ils pouvaient, ils habiteraient plus bas, mais l'or est là, donc ils sont là.
Donc ils sont là, et ce sont des gens qui viennent, et la population, je crois, a beaucoup augmenté au fur des années, récemment en tout cas.
Voilà, c'est ça, depuis plusieurs dizaines d'années, là, cette ville a grandi aussi, parce que ben, y a des gens qui viennent tenter leur chance, même si ça ne marche pas à tous les coups, mais c'est un petit peu le rêve de l'or qui fait venir les gens ici.
Alors, en octobre 2018, vous partez pour une première mission de reconnaissance avec Axel Pité.
Ouais.
On écoute vos premières impressions lorsque vous arrivez à la Rinconada.
Et puis, on est à 5003. Il n'y a plus que la moitié de l'oxygène par rapport à ce qu'on a en plaine. Monter les rues, ça fait souffler fort. Le cœur bat fort, la ventilation... Mais malgré tout, on voit les gens qui habitent, les enfants qui jouent dans la rue. Et voilà, une rue piétonne, des petits magasins. Tout ça tournait autour de la ville.
Premières impressions ? Souvenirs ?
Oui, c'est des grands souvenirs. Hein. C'est vraiment cette idée de contraste où, de fait, on est dans une ville. En fait, on a, comme je dis souvent, là-haut, on est un petit peu dans un autre monde. On est dans une ville, 50 000 habitants, c'est pas rien. Il y a des petits magasins, bon, c'est très pauvre, mais quand même, on sent qu'il y a une... On n'est pas en pleine montagne, quoi. On est dans une ville. Et à la fois, dès qu'on marche, dès qu'on monte trois marches, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Eh ben, là, pour le coup, c'est comme si j'étais plus haut que le Mont Blanc, quoi.
Ouais. C'est vrai qu'on l'entend dans l'extrait... Déjà essoufflé.
Ouais, vraiment, on fait trois marches et on le ressent tout de suite. C'est-à-dire qu'on marche trois marches pour aller à la petite boulangerie ou la petite échoppe et là, on sent que d'un coup, on est essoufflé, qu'on n'arrive plus à avancer. Et qu'est-ce qui se passe ?
Vous étiez déjà allé au Pérou auparavant ?
Non, c'était la première fois.
Première fois ?
Ouais.
Quel était l'accueil sur place ? Comment ça s'est passé ?
Eh bien, donc on y est d'abord allé fin 2018, de fait, pour reconnaître. Et,
en octobre, c'est ça.
Voilà, en octobre 2018, juste à deux, pour voir les conditions dans lesquelles on pourrait venir avec beaucoup plus de matériel, de chercheurs, etc. On a été très, très bien accueillis. Hein, ils sont très contents qu'on s'intéresse à eux. Surtout les gens de cette ville de la Rinconada qui ont le sentiment d'être un petit peu isolés, de l'impression que l'État péruvien ne s'occupe pas d'eux. Et là, de voir qu'il y a des Européens qui viennent jusque-là pour les voir et pour... essayer de comprendre les conditions dans lesquelles ils vivent, ils sont très contents. Ouais.
Et justement, il n'y avait pas un petit peu ce risque d'arriver en conquistador ou en blanc un peu sauveur ? Est-ce que vous y avez pensé et comment est-ce que c'est ?
Oui, c'est ce qu'on appelle un peu le questionnement éthique, c'est-à-dire dans quelle mesure, pourquoi on va dans cette ville, qu'est-ce qu'on peut leur apporter ou en tout cas, qu'est-ce qu'on ne doit pas leur voler, entre guillemets. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas juste aller là-bas pour faire trois mesures scientifiques et revenir tout content avec ça. Il faut aussi vérifier qu'on essaye de répondre à des besoins qu'ils ont. Donc, on a parlé avec eux. On s'est aussi appuyé sur des médecins de plus basse altitude, mais qui vont régulièrement dans cette ville pour voir qu'est-ce qu'on pouvait leur amener. Puis, on a échangé avec ces mineurs et on a essayé de voir en quoi on pouvait les aider.
Avant de partir donc en février 2019 pour vraiment la mission, vraiment l'expédition, quelles étaient les difficultés à résoudre ? principalement? C'était quoi les difficultés, les points bloquants ou des points critiques?
Ouais, alors il y en a beaucoup. Hein, quand on est, moi d'habitude mon travail c'est de faire de la recherche dans mon laboratoire qui est à l'hôpital de Grenoble. Donc j'ai mon matériel, j'ai mes collaborateurs, j'ai tout autour de moi dans mon laboratoire. Voilà. Alors que là il va falloir faire un projet de recherche sur des dizaines, des centaines de personnes, quasiment de l'autre côté de la planète, à 5000 mètres d'altitude, en dehors de tout hôpital, de tout laboratoire. Il y a à peine du courant, il y a pas d'eau courante, il y a pas de sanitaire, etc. Donc, au niveau logistique, c'est très, très compliqué. Ensuite, on change de pays. Donc, au niveau de la réglementation aussi, il faut s'adapter au pays qui nous accueille, le Pérou, le transport du matériel, du sang, etc.
Toute la logistique.
Toute la logistique, voilà. Donc, c'est toute une... Je pourrais faire une liste entière d'épreuves logistiques et d'organisation pour arriver à faire ça, ouais.
Et ben, finalement, en février 2019, donc, vous partez avec une vingtaine de scientifiques du monde entier pour le Pérou, avec 3 étapes. Et à chaque étape, vous allez tester un groupe témoin.
Voilà, on a commencé en fait par Lima. Lima, c'est la capitale du Pérou qui est au niveau de la mer. Donc, on a voulu d'abord tester, faire des mesures, toutes nos mesures sur des Péruviens qui habitent en plaine, qui sont nés en plaine, pour voir comment, entre guillemets, est la santé d'un Péruvien lorsqu'il naît et qu'il habite en plaine. Puis après, on est monté d'un cran. Alors, c'est un gros cran là-bas. On est monté sur l'Altiplano, ça s'appelle cette région, à 3800 mètres d'altitude, où là, il y a des dizaines de milliers de Péruviens qui habitent. Et donc là, on a testé de nouveau toute une série d'habitants de cette région-là, qui sont nés et qui habitent en permanence dans cette région, pour voir quel est l'état de santé d'un Péruvien qui habite à 3800 mètres d'altitude. Et on savait que là, globalement, ils étaient assez bonne santé. Puis ensuite, on a fait un nouveau grand saut de l'altiplano aux 3800 mètres jusqu'à la Rinconada, cette fameuse ville la plus haute du monde, à 5300 mètres, où là, de nouveau, on a comparé donc cette fois des habitants de la Rinconada qu'on a pu comparer aux autres populations donc de Lima et de l'Altiplano.
Alors justement, quel test est-ce que vous avez effectué?
Alors c'est vrai que quand on organise une recherche comme ça, on n'y va pas juste pour deux prises de sang. Hein. On a fait un maximum de choses, on essaie d'étudier un petit peu tout l'organisme avec toute une batterie de tests, tout un tas de spécialistes qui ont été inclus dans l'équipe. Donc on fait des prises de sang, on étudie le cerveau, on étudie le cœur, on étudie les poumons. On fait des tests d'effort pour voir comment les personnes arrivent à faire un effort physique. On étudie leur sommeil, on prend leur tension artérielle. On fait des analyses génétiques. Donc, en fait, on reconstitue un petit peu comme une clinique. Et on fait passer le volontaire d'une salle à l'autre. Mais, sauf que nous, c'est tout dans une même salle. Mais on fait comme s'il faisait le tour de l'hôpital en deux jours. Quoi.
C'est en deux jours, du coup, que vous allez tester tous les...
Voilà, chaque Péruvien qui est volontaire pour faire nos expériences, lui se prête plusieurs heures, plusieurs demi-journées, jour, nuit, pour faire tous les tests qu'il ferait s'il venait ici à l'hôpital de Grenoble.
C'était facile de trouver des volontaires?
Alors globalement, il voit quasiment jamais un médecin, quasiment jamais un soignant. Donc là, nous, on était tous vus comme potentiellement des gens qui pouvaient les aider. Donc on avait beaucoup, beaucoup de volontaires parce qu'ils étaient contents qu'enfin, ils pouvaient rencontrer un médecin, quoi.
Ouais, du coup vous parliez tous espagnol ou c'était...
Alors non, on parle pas tous espagnol, moi c'est vrai que je viens des Pyrénées à la côté de l'Espagnol, à côté de l'Espagne, donc ça m'aide. Et puis on avait quelques médecins, jeunes médecins péruviens de Lima et de Puno qui nous ont accompagnés et qui nous aidaient à traduire.
Et Puno, c'est la ville de 3800 mètres.
Voilà, pardon, et voilà, 3800 mètres sur l'Altiplano, qui était la ville intermédiaire. Et là, pour le coup, il y a une université, donc c'est à 5 heures de route de la Rinconada, c'est l'université la plus proche. Et il y a des jeunes étudiants en médecine péruviens qui nous ont accompagnés, à la fois pour nous voir faire de la recherche, et puis pour nous aider aussi, et puis aussi pour pouvoir parler espagnol.
Et alors, pour savoir comment ça s'est passé sur place, quels ont été les résultats observés, et si quelques alpinistes qui nous écoutent veulent savoir comment survivre en hypoxie, il va falloir attendre tout à l'heure, parce qu'à la radio, il y a de la musique. On va faire une petite pause musicale. Samuel, tu as choisi de partager avec nos auditeurs la chanson suivante.
Voilà, c'est une chanson de Cali. Cali, c'est un chanteur du pied des Pyrénées, dans ma région natale. Et donc, j'étais content de l'entendre avec vous ce soir.
La chanson « Mille cœurs
debout ».
Les yeux quand tu serres le poing haut vers le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse de la liberté quand tu craches des soleils, la tête haute dans le vent, quand tu chantes à tue-tête à l'amour qui revient couronné de lauriers, nous sommes des milliers. Enfin extraordinaire, notre force est sublime. Elle emportera tout, et s'ils essaient encore, ils se frotteront à mille cœurs debout. Le combat a fait rage, le combat était dur, il a fait des ravages, c'est écrit sur les rides de nos pères, ivres de fierté, ils n'ont rien lâché, jamais. Il y a là la victoire qui nous tend des bras d'or, et puis ces rues qui chantent et ces drapeaux dehors. Je te prendrai la taille et puis nous coûterons à ces instants de vie. Nous sommes des milliers en flamme extraordinaire. Notre force est sublime, elle emportera tout. Et s'ils essaient encore, ils se frapperont à mille cœurs de beau. Entends l'écho noir du naufrage. Quand la nuit gémissait, on rompait sous la peur et la douleur des autres nous tenait éveillés. Est-ce que tu te souviens de l'enfant africain qui vivait en dessous de ses parents raflés, des fusils de la honte qui encerclaient nos écoles? Je n'oublierai jamais. Nous sommes des milliers en flamme extraordinaire. Notre force est sublime, elle emportera tout. Et s'ils essaient encore, ils se frotteront à mille cœurs de beau. À mille cœurs de beau. Tu crois, toi aussi, quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poing haut vers le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse de la liberté? Est-ce que tu vois, toi aussi, quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poing haut vers le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse de la liberté? Est-ce que tu vois, toi aussi, quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poing haut vers le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse de la liberté? Est-ce que tu vois, toi aussi, quand tu fermes les yeux, quand tu serres le poing haut vers le ciel, est-ce que tu sens l'odeur délicieuse de la liberté?
Vous écoutez toujours Open By sur News FM. Vous pouvez nous suivre sur le 101.2 FM sur Grenoble et dans le monde entier, même au Pérou, sur Internet et en podcast. N'hésitez pas à vous abonner à notre compte Instagram @openby pour suivre notre actualité. Nous sommes toujours avec le scientifique Samuel Vergès. Alors Samuel, tu viens de partager avec nous la chanson « Mille cœurs debout » de Kali. Pourquoi ce choix ?
Eh bien, je trouve qu'elle est pleine d'espoir. J'aime bien la sensation un petit peu d'être à fleur de peau que nous fait ressentir Kali quand il chante. Et puis celle-là, elle est pleine d'espoir. Autant des fois, Kali, il chante des choses qui sont un petit peu déprimantes, autant là, c'est plus pleine vie.
On retrouve la joie que tu évoquais tout à l'heure.
Voilà.
Et en cette année 2020 qui commence, il faudra bien plus de 1000 cœurs debout pour faire changer les choses quant à l'état de notre planète. C'est le sujet d'actualité que tu as choisi d'évoquer avec nous, cette prise de conscience autour de la question climatique. Pourquoi ?
Eh bien, je trouve que c'est quand même quelque chose maintenant qui quand on entend parler de plus en plus, hein, et puis qu'on ressent là aussi quasiment physiquement quand on voit les modifications. Nous, on est à Grenoble, on a des montagnes tout autour de nous, on a des stations de ski dont on voit qu'il neige plus, on voit des températures extrêmes l'été à Grenoble, donc on commence à sentir. C'est plus simplement des gens qui nous disent oh, le climat change, là on commence à le sentir sur nous-mêmes. Et donc ça modifie les chats et ça va modifier de plus en plus fort de ce qu'on mange à comment on vit, etc. Donc c'est assez énorme ce qui arrive. Et malgré tout, la bonne nouvelle, je trouve, c'est qu'on en parle de plus en plus. Donc c'est déjà un premier stade.
C'est un sujet qui t'intéresse depuis longtemps ?
Oh, bah, encore une fois, pour bien aimer la nature, pour avoir grandi, vécu en montagne, oui, je suis sensible à la qualité de l'environnement qui m'entoure. Et puis, peu à peu, j'ai aussi appris, comme tout le monde, à être plus sensible à l'impact de ce qu'on mange sur notre santé, de comment on se déplace sur l'environnement. Et comme tout le monde, j'apprends petit à petit et je me rends compte que chacun de nos gestes a un impact sur notre environnement.
Tu fais quoi concrètement, par exemple ?
Alors, c'est tout plein de petits gestes que les uns les autres, on essaye. Mais à Grenoble, c'est sûr que se déplacer en vélo, on a une super ville pour ça. Et donc, de pouvoir ne pas toucher la voiture du lundi au week-end, c'est quand même chouette. D'essayer de manger des choses qui sont produites autour de Grenoble. Là aussi, on a des cultivateurs, on a des agriculteurs qui font des super fromages, légumes, etc. Donc, de manger des choses qui viennent d'à côté de Grenoble et non pas de l'autre côté de la planète, ça, pour moi, c'est à la fois bon pour moi et bon pour la planète.
Eh ben, c'est formidable. Et ce qui est bien aussi, comme tu le dis, c'est qu'on en parle de plus en plus, notamment dans les médias, et on en parle mieux. Et c'est le sujet de ma rubrique sur l'actualité des médias, l'instant Téloche. Alors, pour commencer, je vous propose d'écouter un petit zapping réalisé par un youtubeur qui s'appelle le Pixelmore à propos des débats qu'on peut entendre à la télé sur le climat. Alors, zapping, j'ai modifié un petit peu, mais vous avez l'idée.
Désormais, chaque année, les records de température mensuelle sont battus trois fois plus souvent que si le climat était stable. Notre cher 21e siècle compte déjà à lui seul 13 des 14 années les plus chaudes jamais enregistrées.
Il est là ! Le réchauffement climatique, moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines. À Brest, on a relevé une température de moins 0,2 degrés.
D'ici 2050, le réchauffement de la planète va créer 250 millions de réfugiés climatiques. D'ici là, chaque jour dans le monde, 130 espèces disparaîtront. Et nous aurons produit suffisamment de plastique pour pouvoir envelopper la planète entière.
On a le choix entre deux anxiétés. L'anxiété de la fin du monde, pour reprendre la formule maintenant consacrée, qui est de dire de toute façon, quand on lit les experts, le réchauffement climatique, la biodiversité, on va vers le pire. Ou l'anxiété de changer ses habitudes, mais de dire il y a malgré tout une sortie et on peut avoir un agenda gagnant-gagnant.
On est au 21e siècle.
Non mais ça suffit cet argument.
Non mais c'est pas possible.
Si vous me laissez pas parler, j'arrête.
Allez-vous cultiver scientifiquement, enfin.
Non mais ça va pas là.
Mais on est quand même...
Si on commence par les insultes, je me barre.
Emmanuel Macron a déclaré qu'il faut changer notre système économique et notre manière de produire, sauf que ses actes disent le contraire. Le gouvernement tente par exemple actuellement, en toute discrétion, de réduire les pouvoirs du Conseil national de protection de la nature, dit cet article, et ce au profit des projets industriels, projets qui pourraient saccager plus facilement les espèces protégées, je cite toujours Libération. Et ce n'est qu'un exemple, puisqu'en France, en matière de zones naturelles, c'est l'équivalent d'un département entier qui disparaît tous les 10 ans, nous dit Le Journal.
Alors Samuel, est-ce que vous suivez un petit peu les médias ? Là, on vient d'entendre un petit zapping qui date un petit peu, mais qui représente un peu ce qu'on peut entendre, l'actualité liée à l'environnement. Tu suis un peu ?
Oui, j'écoute ça. Non, c'est tellement important que, bien sûr, ça passe aussi par les médias. Pas que par les médias, parce que dans les médias, on entend aussi de tout, sauf dans votre superbe radio. Mais sinon, on peut entendre des choses pas très bien adaptées, mais quand même, c'est important aussi de savoir ce qui nous entoure. Ouais.
Non, c'est bien, on voit aussi typiquement la Greta Thunberg qui a été élue personnalité de l'année pour le magazine Time, ouais. Ou alors les marches récentes pour le climat, qui ont été d'ailleurs très mobilisatrices à Grenoble.
Ouais.
Je ne sais pas si tu savais d'ailleurs que c'était Grenoble, la ville où il y a eu le plus de manifestants pour le climat, proportionnellement à la
population. D'accord,
non,
je ne savais pas, mais d'un côté, ce n'est pas étonnant, c'est vrai que... On a la chance d'habiter, je pense, dans une région qui a conscience de cet enjeu climatique. Ouais.
Ah, absolument. Alors, pourquoi est-ce que les médias en parlent plus ? Parce que, tout simplement, ça concerne tout le monde. Et c'est ce que nous a expliqué Olivier Abalin, qui est un professeur référent master de climat et médias à l'École supérieure de journalisme de Lille. Et voici pourquoi, selon lui, la problématique de l'environnement est davantage présente.
Elle est plus présente, d'abord parce que les médias se sont rendus compte... lorsqu'ils suivent leurs audiences, par exemple, en temps réel sur Internet, ils se sont rendus compte que c'était des sujets qui engageaient beaucoup leurs lecteurs. Et je reprends les mots du directeur du Parisien, qui n'était pas un titre réputé pour être un titre particulièrement mobilisé sur la question environnementale. Le Parisien aujourd'hui, depuis 2018, a plutôt augmenté le nombre de sujets consacrés à l'environnement d'une façon générale et au changement climatique, parce que ils ont repéré cet intérêt important de leurs lecteurs, cet engagement important, aussi bien dans les ventes papier que dans les audiences internet, lorsqu'il consacrait un sujet à ces thèmes-là.
Et cette prise de conscience, cet engagement s'est fait en plusieurs vagues.
Il y a eu une première vague en 88, hein, où le sujet arrive vraiment dans les rédactions. C'est au moment de la première réunion sur le climat qui se tient à Montréal, qui est la réunion qui va, pas à Montréal mais au Québec, qui est la réunion qui va lancer le GIEC.
Puis, 10 ans plus tard, il y a le célèbre protocole de Kyoto.
On arrive ensuite à 98, où le sommet de Kyoto montre qu'il est possible d'avoir une action concertée des gouvernements. Il est possible que les gouvernements se mettent d'accord pour résoudre une crise environnementale.
Et ensuite, fin des années 2000.
On arrive au tournant des années 2010, où le prix Nobel qui a été attribué à Une vérité qui dérange de l'ancien président américain Al Gore, donc c'était un documentaire sur la thématique du changement climatique, qui a reçu le prix Nobel de la paix, conjointement avec le GIEC, qui là montre aux rédactions que c'est une thématique qui n'est pas juste l'affaire des gouvernements, qui n'est pas juste l'affaire de grandes réunions internationales, mais que, en fait, les citoyens et la société civile s'en occupent.
Et plus récemment, l'environnement qui est véritablement devenu l'affaire de tous.
Et la dernière étape sont les années post-2015, où là s'accumulent des faits marquants. On a pour coutume de dire que la météorologie et le climat, c'est pas pareil, que c'est pas parce qu'il fait froid dehors que le changement climatique s'est arrêté. Alors, effectivement... Mais en pratique, lorsqu'on regarde l'accumulation de données météorologiques sur une année et que l'on voit que la dernière décennie est probablement, donc la décennie qui est en train de s'achever est probablement celle qui aura été la plus chaude depuis plusieurs centaines d'années sur Terre, et bien ça sont des données facilement vérifiables par les gens qui voient l'accumulation des épisodes extrêmes de canicules, des épisodes extrêmes de pluies intenses, et donc ça a tendance à mettre l'agenda climatique à l'agenda quotidien des gens.
Et c'est ce que tu disais, Samuel, tout à l'heure, à propos justement de cet environnement dont on voit les effets, qu'on observe au quotidien. J'avais une question que je me suis posée. Est-ce que la pollution, est-ce que ça a un impact sur l'hypoxie ?
Alors, pas vraiment d'interaction non, entre le... À la fois, c'est l'air, la qualité de l'air. Est-ce qu'il y a plus ou moins d'oxygène ou est-ce qu'il y a plus ou moins de microparticules, de polluants ? Mais c'est quand même deux choses différentes. Donc, en montagne, on peut espérer que l'air est plutôt un peu plus pur, encore que ça dépend des montagnes si elles sont trop près d'axes routiers. Mais globalement... Il y a moins de polluants lorsqu'on monte en altitude, il y a aussi moins d'oxygène, mais ce n'est pas forcément lié. Ouais.
D'accord, et à 5300 mètres d'altitude, du coup, là, la Rinconada, pas de pollution c'est...
Dans l'air, non, ça va, même si par contre, malheureusement, il y a d'autres produits chimiques qui sont utilisés pour extraire l'or, du mercure en particulier, qui, eux, polluent les sols. Ouais.
Il faut que tu respires, et ça c'est rien de le dire, tu vas pas mourir de rire. C'est pas rien de le dire.
Vous écoutez toujours Open By sur News FM. Nous sommes toujours avec Samuel Vergès. Et cette fois-ci, maintenant qu'on a beaucoup parlé d'environnement, on va revenir sur le déroulé de l'expédition 5300 dans la ville la plus haute du monde. Donc Samuel, tu arrives avec l'équipe de scientifiques, Rinconada, février 2019. Et on va voir dans cet extrait qu'il y a déjà beaucoup d'attentes de la part des mineurs.
Un tas de mineurs qui sont là pour nous aider à transporter le matériel et surtout qui sont très très impatients que l'on commence ces évaluations, qui sont très preneurs de conseils médicaux. Donc on a beaucoup d'attentes ici.
On l'a évoqué un petit peu tout à l'heure justement, ces questions, justement ces attentes de la population locale.
Eh bien, ces habitants, ils vivent avec moitié moins d'oxygène et ils le sentent chaque jour sur leur organisme. Donc, ils se font du souci, ils ont des problèmes de santé qu'ils peuvent tout simplement constater. Il y en a beaucoup qui ont mal à la tête, il y a des problèmes de varices, de microcirculation. Ils ont aussi des histoires, souvent dans leur famille, de quelqu'un qui a fait un accident cardiaque, etc. Donc, ils sont là parce que pour leur métier, en tant que mineur, il faut y être. Mais d'un autre côté, ils se font du souci pour leur santé et malheureusement, ils se font du souci pour leur santé et ils ont très très peu de médecins, voire pas du tout de médecins dans cette grande ville. Du coup, ils nous ont vu arriver un peu comme des personnes qui allaient pouvoir les aider pour leur santé.
Est-ce que tu peux nous parler du mal des montagnes ?
Alors, le mal des montagnes, c'est une catégorie de maladie, de dysfonctionnement de l'organisme qui est liée au manque d'oxygène lorsque l'on monte en altitude. Et il y a deux grandes familles de mal des montagnes. Il y a le mal des montagnes que nous, on peut avoir lorsqu'on part de plaine et qu'on monte très vite au Mont Blanc, par exemple. On risque d'avoir mal à la tête, d'être nauséeux, d'être très fatigué. Donc ça, c'est le mal qu'on appelle aigu des montagnes. C'est celui des gens de plaine qui montent en altitude. Et eux, ces Péruviens qui vivent en permanence en altitude, ils ont le mal chronique des montagnes. Chronique, ça veut dire permanent. Lorsque l'on est en permanence en altitude, eux aussi développent une certaine intolérance au manque d'oxygène. Au bout d'un moment, ça pèse trop sur leur organisme. Et donc, ils sont quelques pourcents, enfin, à la Rinconada, c'est même 25% de la population qui souffre de ce manque d'oxygène. Et ça se transforme en maux de tête, en vertige, en palpitement cardiaque, en développement de varices, etc.
Ce qui veut dire que 75% de la population va potentiellement pas trop mal.
Pour l'instant, oui. La question, c'est pendant combien de temps, en fait? Parce que sans doute qu'il y a un phénomène d'usure. C'est-à-dire que nous, on voit les personnes une fois, mais est-ce que dans 10 ans, ceux qui l'on voit, qui sont à peu près en bonne santé, est-ce que dans 10 ans, ils le seront toujours? C'est aussi une des questions que l'on a, de savoir est-ce qu'il y a un moment, un nombre d'années ou d'un moment qui fait qu'on risque de tomber malade là-haut.
Tu disais tout à l'heure, justement, que la littérature scientifique, en tout cas, suggérait que l'homme ne pouvait pas survivre durablement à plus de 5000 mètres d'altitude. Pourtant, à la Rinconada, les gens survivent. La question que j'ai envie de te poser, est-ce que n'importe qui peut y survivre ou est-ce que c'est vraiment plus les Péruviens ou des personnes qui vivent dans ces régions-là qui peuvent y survivre?
Alors, ce qui est sûr, c'est que nous, d'un coup, d'un seul, sauf si tu me dis que tu as une famille péruvienne, mais nous, on n'y arriverait pas. Il faudrait vraiment qu'on passe des générations et des générations à un petit peu plus haute altitude, un petit peu plus haute altitude. Donc, il y a déjà la nécessité d'avoir les gènes, le bagage génétique, l'histoire dans sa famille, pour arriver, pour tenter sa chance, je dirais, d'y vivre pendant longtemps. Mais après, même quand on a toute cette histoire dans notre famille, on a quand même des chances de tomber malade du fait de ce manque d'oxygène. Moitié moins d'oxygène qu'à Grenoble, c'est énorme, hein, moitié moins d'oxygène. Donc nous, les êtres humains, on a besoin d'oxygène pour vivre. Eux, ils en ont moitié moins tous les jours. Au bout d'un moment, il y a sans doute des habitants de la Rinconada qui tomberont jamais malades, mais pour beaucoup, quand même, ça risque de se compliquer. Hein.
Quelles sont les observations les plus étonnantes que tu as pu voir sur place?
Alors, au niveau des habitants eux-mêmes, en fait, on voit des gens qui ont une couleur de peau, du bout des doigts, des lèvres qui est un peu violacée, bleu violacé. Et donc ça, c'est le signe d'un sang qui est très très peu riche en oxygène. On le voit donc quasiment visuellement. Et puis après, quand justement on se dit, ben tiens, on va prélever un peu de sang pour voir ce qu'il y a dedans, et bien au moment où on plante une aiguille dans une veine et qu'on normalement le sang coule tout seul comme chez nous, mais là, il coule pas du tout, en fait. Il est très pâteux, donc il faut quasiment l'aspirer pour arriver à le faire sortir de ses veines. Ils ont un sang terriblement pâteux, riche, lourd de globules rouges.
Visqueux, c'est ça?
Visqueux, exactement.
Et justement, tu disais dans l'article du Monde, nous venons de trouver ici, à la Rinconada, ville la plus haute du monde à 5300 mètres d'altitude, 85% de taux d'hématocrite dans le sang d'un travailleur de la mine. C'est hallucinant. En France, n'importe qui avec un tel taux serait déjà mort d'une crise cardiaque ou d'une hémorragie cérébrale.
Oui, tout à fait. Donc c'est
le taux d'hématocrite, tu peux expliquer
voilà,
ce que c'est?
Voilà, l'hématocrite, encore un mot un peu barbare, mais c'est en fait la partie du sang, de notre sang, qui est occupée par les globules rouges. Et nous, à Grenoble, il y a 40-50%, moins de la moitié de notre sang qui est composé de globules rouges, donc ces petits transporteurs de l'oxygène, et le reste, c'est du plasma, c'est très, très liquide. Mais là-bas, le problème, c'est qu'ils ont tellement besoin de globules rouges pour transporter le peu d'oxygène qu'ils arrivent à respirer, qu'ils arrivent à avoir 70, 80, 85% du volume de leur sang qui est occupé par ces globules rouges. Et ces globules rouges, ils sont gros, ils prennent de la place, ils sont pas, ils sont visqueux. Et du coup, c'est ça qui fait que leur sang devient très, très visqueux.
Et d'ailleurs, tu ajoutes dans l'article du Monde que quand un cycliste professionnel dépasse 50% au moment d'une course, on l'empêche de partir parce que ça peut être dangereux pour sa santé.
Ou alors il est dopé. c'est là qu'on voit que l'effet du dopage espéré par les cyclistes, c'est d'arriver à 50% d'hématocrite. Et là, déjà, ça va les aider à pédaler plus vite. Mais là, les Péruviens, c'est complètement une autre dimension, 85%. Et là, pour le coup, c'est trop parce que ça ne les aide pas du tout à être en bonne santé.
Et c'est durable ou pas? C'est-à-dire, typiquement, supposons, je sois un cycliste, je veux faire le Tour de France, je pars à la Rinconada, j'ai plus d'hématocrite, et ensuite, je redescends. Est-ce que je vais garder cet hématocrite ou est-ce que les effets sont réversibles, on va dire, de la vie à la Rinconada?
Alors, c'est vrai que les sportifs vont s'entraîner en altitude. Donc, c'est vrai qu'un petit peu d'altitude, pas trop haut, pas la Rinconada, mais moins haut, c'est bien pour développer quelques globules rouges en plus. Et là, on se sent plus en forme, y compris quand on redescend en plaine. Par contre, habiter comme les habitants de la Rinconada pendant des mois, des années et développer autant de globules rouges, là, il y a trop de globules rouges. Et quand on redescend en plaine, ça va pas être efficace.
Du coup, c'est irréversible, en fait.
Alors, eux, s'ils redescendent, ils peuvent quand même peu à peu éliminer des globules rouges. Ils vont avoir besoin de moins de globules rouges, donc ils vont normaliser un petit peu leur sang. Mais par contre, oui, lorsqu'on redescend d'altitude, on a une quinzaine de jours où on garde les nouveaux globules rouges qu'on a développés en altitude, mais au bout d'une quinzaine de jours, ils disparaissent.
D'accord. Alors, je te propose qu'on écoute quelques observations faites par ton équipe sur place à Axel Pitté, dans les carnets d'expédition scientifique. Vous pardonnerez le son qui est pas foufou.
Après, on se rend compte qu'au niveau de leur activité cardiovasculaire, ils sont pas forcément très au top, on va dire, comparativement à ce qu'on pourrait avoir chez des natifs de basse altitude. Mais il faut qu'on analyse bien tous les résultats.
Il y a des modifications essentiellement sur le cœur droit, des cœurs droits qui sont beaucoup plus volumineux, dilatés, que ce soit l'oreillette droite ou le ventricule droit. Il y a un niveau de pression pulmonaire au repos comme à l'effort qui semble plus important quand même.
C'est sûr qu'on a vu pas mal de différences, en tout cas rien que pour les prélèvements, c'est déjà beaucoup plus dur. C'est dû à l'hématocrite qui est beaucoup plus élevé, le sang qui est plus visqueux. C'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés à prélever le sang.
D'autres observations que tu as pu noter?
Oui, alors on a pu également mesurer objectivement donc la quantité de sang qu'ils ont et la quantité de globules rouges. Donc on a mesuré des litres et le poids de leur sang, etc. Ils ont un volume de sang. Nous, on a 4, 5 litres de sang. Eux, ils ont 8 litres de sang. Quoi. Donc,
8 litres de sang
dans leur organisme, wow. c'est énorme. Et donc, nous, on a 800 grammes de globules rouges dans notre organisme, 800 millilitres en gros. Eux, ils ont des fois plus de 2 litres de globules rouges au total sur les 8 litres. Donc, c'est vraiment énormément d'hémoglobine. Donc, c'est des valeurs, en fait, que nous, on voit jamais ici, même dans les hôpitaux, même chez les personnes malades. C'est des valeurs qui sortent complètement des normes.
Qui sont uniques, en fait. C'est vraiment unique.
C'est des valeurs qui n'ont jamais été mesurées chez l'homme, en fait, qu'on a mesurées là-haut. Ouais.
Et les populations qui vivaient à la Rinconada, que vous avez testées, est-ce que c'est une population qui vivait là depuis longtemps? Est-ce que c'est une population qui est plus récente, de chercheurs d'or qui sont venus par opportunité?
Alors, à la Rinconada, on sait qu'il y a des Péruviens, des Incas, à l'époque, qui cherchaient déjà de l'or. Et les Espagnols sont venus aussi là chercher de l'or. Et puis, depuis plusieurs centaines d'années, c'est vrai que cette ville grandit, parce que l'or a de plus en plus de valeur sur les marchés internationaux, etc. Donc, à la fois, c'est une ville très, très ancienne. Il y a des gens qui cherchent de l'or depuis les Incas, mais qui s'est aussi beaucoup développé ces dernières dizaines, centaines d'années.
La population, il y a des personnes âgées là-bas?
Alors, c'est vrai que quand on regarde dans... Alors, bon, déjà, il n'y a aucune mairie qui prend la liste des gens, de leur âge, etc. Donc, réellement, on n'en sait rien. Mais si on regarde juste les gens qu'on croise dans la rue, on voit peu de gens, voire pas du tout de gens au-delà de 55-60 ans. Donc, l'espérance de vie déjà au Pérou est plus faible qu'en France, hein, partout dans l'ensemble du Pérou. Mais alors dans cette ville-là, on peut imaginer qu'elle est quand même très basse. Ouais.
Parce que du coup, dans les cas des personnes qui sont venues vous voir, il y a plus d'un millier de personnes qui sont venues.
Oui, tout à fait. Ouais.
Je crois que c'est assez énorme, hein, d'ailleurs.
Oui, oui, ça fait beaucoup de monde.
Ouais, un millier de personnes en 2 semaines.
Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais.
Qui sont venues et il n'y avait pas de personnes âgées, c'était plutôt des jeunes, plutôt de l'âge moyen.
Oui, voilà, entre 20 et 55 ans, quoi, les plus âgés. Ouais. Ouais, ouais.
Et après, donc, vous restez pendant 2 semaines, vous travaillez beaucoup. Paraît-il, ce que vous disiez tout à l'heure.
Oui, oui, très. Oui, mais quitte à être sur place, à voir tout. Puis bon, il y a une telle demande que. Puis nous, on sait aussi qu'on ne va pas arriver à rester très longtemps là-haut, dans cette ville à très haute altitude. Donc on fait des grosses journées pour arriver à faire tester toutes les personnes qu'on a à tester.
Et puis ensuite, vous rentrez en France.
Voilà.
Vous prenez quelques semaines pour vous réacclimater.
Oui, c'est ça, on récupère parce que nous aussi, on a été usés par le manque d'oxygène, enfin même beaucoup plus que les locaux. C'est ça qui est intéressant, en fait, c'est qu'on vient voir ces Péruviens pour essayer de voir qu'est-ce qui leur fait souffrir ou quel est l'effet du manque d'oxygène sur leur corps. Donc c'est nous qui, théoriquement, sommes les scientifiques et avons le savoir, mais en fait, ceux qui savent vivre en altitude, c'est eux. Donc au bout d'un moment, c'est eux aussi qui nous expliquent comment vivre localement. Mais on est content après de redescendre.
Des petits conseils qu'ils vous ont donnés?
Eh bien, aller doucement. Hein. C'est sûr que quand on les voit marcher dans les rues, etc., on voit qu'ils vont doucement. Et nous, on sort du 4x4 comme si on était à Grenoble. Hop, on saute, on fait 3 pas et là, on comprend qu'il y a quelque chose. Donc, si on ne veut pas vite être très fatigué ou voire malade, il faut aller plus doucement.
Donc, vous rentrez en France et ensuite, il y a toute une phase d'analyse, d'analyse des thèses, d'interprétation. Quels sont les premiers résultats auxquels vous arrivez?
Voilà, bah la recherche, c'est ça. Hein. On fait tout un tas de mesures, on mesure, puis après on rentre avec des tonnes de données en France, et puis on analyse, et là on analyse pendant des mois. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et puis on est en train justement de chercher, de découvrir les premiers grands enseignements de cette recherche, où on voit de fait ces données cardiaques qui montrent qu'ils ont des cœurs un petit peu exceptionnels, des quantités de sang, de globules rouges dont on a parlé, plus ouais. élevées que tout ce qui a été mesuré. Donc c'est toutes ces analyses après qui durent des mois et des mois dans nos laboratoires.
D'accord, donc là il n'y a pas encore forcément de choses de résultats.
On a quand même pas mal de données déjà, ce qui nous permet de prévoir la suite justement, mais c'est encore en cours. Par exemple, tout ce qui est les analyses génétiques, c'est des choses qui sont très très lourdes à faire et ça c'est encore en cours.
Ouais. Vous attendez à certains résultats ou vous êtes vraiment prudent par rapport à ça?
Alors sur la génétique, on est prudent. On pense qu'on va voir des différences de génétique entre les habitants de ces 3 villes qu'on a étudiées au Pérou, de plaine, d'altitude intermédiaire et de très haute altitude à la Rinconada. on va voir des spécificités génétiques, ce qui est rare hein, de voir des différences génétiques dans des populations humaines si proches, mais exactement lesquelles, on ne peut pas encore dire.
Est-ce que vous auriez quelques conseils pratiques à partager aux alpinistes qui nous écoutent à Grenoble, il y en a quelques-uns, pour justement gérer ce manque d'oxygène, cette hypoxie?
Alors en fait, parce que justement les habitants arrivent à vivre en permanence à la Rinconada, c'est quand même la démonstration que l'homme, l'être humain, peut vivre quand même avec beaucoup moins d'oxygène que ce qu'on a à Grenoble. Donc c'est vrai qu'un alpiniste, il a envie de grimper et potentiellement c'est possible. Par contre, pour y arriver, pour arriver à y rester en permanence à la Rinconada, les habitants de la Rinconada, ils y sont depuis des milliers d'années. Alors nous, pour aller faire le Mont Blanc, on ne va pas pouvoir passer des milliers d'années à des altitudes intermédiaires, mais ce qu'il faut à l'organisme humain pour s'adapter à moins d'oxygène, c'est du temps. Donc quand on doit aller monter à 3000 ou à 4000 ou à 5000 mètres, il faut y monter progressivement, doucement, pour laisser du temps à l'organisme à s'adapter.
Donc il faut monter par palier en fait.
Exactement, il faut faire plusieurs nuits intermédiaires, voire un premier week-end, un premier séjour à une altitude un peu moindre, avant d'aller un petit peu plus haut, un petit peu plus haut. Pour y aller progressivement, le corps humain peut s'adapter à moins d'oxygène, mais il lui faut du temps.
Et pour la suite, qu'est-ce qui se passe après?
Alors nous, l'histoire avec la Rinconada, ça a été d'y aller pour voir comment des hommes peuvent vivre à plus de 5000 mètres d'altitude, mais aussi pourquoi certains n'y arrivent pas et pourquoi certains sont malades. C'est ce qu'on analyse actuellement. Et la deuxième étape de l'histoire que l'on construit avec le Pérou, c'est ceux en particulier qui sont malades à 5300 mètres d'altitude, comment on peut aider à les soigner. Et donc là, on va retourner de fait début 2020, en février 2020, dans cette ville, avec la deuxième partie d'une espèce de contrat qu'on avait signé avec les habitants de la Rinconada. Mais cette fois, on revient avec certains médicaments, certaines solutions pour améliorer la santé de ceux qui, à la Rinconada, sont malades du fait du manque d'oxygène.
Donc là, c'est vraiment davantage l'aspect humanitaire qui va...
Oui, alors même au niveau des essais de médicaments, il y a quand même un aspect scientifique parce qu'on ne sait pas trop quels médicaments il faut utiliser. Donc on va tester deux médicaments contre ce qu'on appelle un placebo, c'est-à-dire un médicament qui, lui, n'a pas d'effet. Puis on va voir si certains médicaments peuvent améliorer la santé sur la base de mesures objectives de chez ses habitants.
On va rester en montagne avec toi, Mathilde. Dans ton instant narration, tu vas nous emmener dans les hauteurs. C'est à toi, Mathilde, pour ton instant narration.
Bonsoir à tous, chers auditeurs et auditrices. Je suis passionnée d'alpinisme, j'ai 27 ans et je m'apprête à gravir avec mes compagnons le sommet de l'Everest. Lorsque je l'ai annoncé à mes proches, ils avaient des têtes admiratives mais aussi des regards inquiets. Il est vrai que c'est une sacrée épreuve au niveau physique et mental qui nécessite un entraînement progressif de plusieurs mois voire années. La montée de sommets montagneux s'est démocratisée depuis quelques années mais ne reste pas moins difficile. C'est un défi qui marque nos corps, parfois même jusqu'à en perdre des membres. C'est pourtant un symbole de détermination dont nous faisons preuve. Lorsque le froid, la faim, la fatigue, la douleur nous assaillent en même temps, peu importe où nous en sommes par rapport au but que nous nous sommes fixés, nous sommes déterminés à avancer. Cela nous demande de nous dépasser. Nous demandons à notre esprit de forcer notre corps à se mouvoir encore quelques temps. Le mental est comme un muscle, il faut le faire travailler pour le rendre plus fort et encaisser les difficultés. C'est un sport extrême. Le corps doit s'adapter aux changements d'altitude, donc se fournir plus d'oxygène et de sang. C'est un sport qui m'a toujours fait rêver. Même dans mon caractère, j'aime aller de l'avant et aller au-delà de mes limites physiques pour me redécouvrir à chaque fois. Je me souviens encore de cette montée, enneigée. J'étais équipée comme il le fallait, mais je me sentais faible. J'avais du mal à avancer. J'étais attachée, sécurisée avec mes camarades, mais j'avais l'impression que tous les dieux me lançaient des flèches dans les jambes pour que j'arrête mon ascension. Mon cœur battait comme je ne l'avais jamais senti battre. Je ne sentais plus mes orteils. Je voyais des points blancs se distinguer dans la neige. J'avais des vertiges. Je fus soudain stressée de faire partie de ceux qui n'ont pas survécu à la montée et qui sont devenus des points de repère pour passer le sommet. Ils auront laissé la vie là où ils se sentaient le plus vivre. J'ai d'ailleurs un ami dont le frère avait connu le même sort, mais un peu plus haut que là où je me trouvais. Je comprends à présent pourquoi. Mon coéquipier devant moi sentait que la corde se raidissait sous mon poids. Il fit des coups de bassin vers l'avant comme pour m'encourager à avancer, parce que oui, en plus de mon état physique déplorable, le vent soufflait très fort et je restais accroché comme je le pouvais. C'était pendant encore quelques heures de montée que je souffrais terriblement. Les larmes ne pouvaient même plus couler. mais ma détermination avait créé en moi une flamme dans mon cœur à laquelle je décidais de croire. D'un coup, mon coéquipier de devant s'arrêta. Il me fit un signe de la main pour que je continue à monter. Je le rejoignis et je remarquai alors que la montée s'arrêtait. Je le regardai, interloqué. Nous étions au sommet. Je lus quelques jours plus tard dans les actualités que lors de la réunion annuelle du comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel à Bogota, la France, l'Italie et la Suisse se sont alliés pour promouvoir cette pratique bicentenaire qui consiste à gravir des sommets et des parois de hautes montagnes.
Merci. Mathilde, Samuel, une réaction ?
C'est un très beau récit, hein. C'est typiquement les choses incroyables qu'on peut vivre en montagne et finalement les choses incroyables que la montagne nous apprend.
Eh ben, c'est formidable. Samuel, petite question qu'on m'a subrepticement glissée par message. Si tu n'avais pas été chercheur, qu'est-ce que tu aurais été ?
Ah, j'aurais peut-être été sportif, alpiniste peut-être, pour découvrir cet environnement-là, juste personnellement, physiquement.
Faire l'alpinisme de ta vie, un peu ce qu'évoquait...
Évoquer
Mathilde,
pas.
Avec les aspects parfois un petit peu dramatiques aussi de la chose.
Malgré tout, ouais, il faut se méfier.
Qu'il ne faut pas oublier. Je pense qu'on a fait un peu le tour du sujet, on a vu beaucoup de choses.
Merci. L'émission, très intéressante.
C'était très intéressant, en effet. Mathilde, on met générique ?
Oui.
Allez.
Et voilà, Open By, c'est quasi terminé pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Juste avant de vous quitter, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. Tout d'abord, l'équipe de Samuel Vergès de l'expédition 5300 est repartie au Pérou le 27 janvier dernier pour une nouvelle expédition à la Rinconada. N'hésitez d'ailleurs pas à suivre leurs aventures sur internet via leurs réseaux sociaux et leur chaîne YouTube. Autre grande nouvelle, vous êtes désormais plus d'un millier, ouais, plus d'un millier à nous avoir écoutés sur le 101.2 et surtout en podcast. Alors peut-être avez-vous tout écouté, peut-être avez-vous seulement écouté l'épisode de l'invité qui vous intéressait. Quoi qu'il en soit, merci à vous et merci à la radio News FM pour leur accueil, leur confiance et leur disponibilité pour ces 10 émissions. Et oui, 10 émissions déjà. Des remerciements à nos invités de Grenoble ou de passage sur Grenoble. Ephrasis, Mathis Druel, Mac, Eric Moifaux, Kader Bueno, Laura Domange, Samuel Vergès, Dedo, Maïté Darnaud et Caroline Ruel des Swing Girls. Toutes et tous ont accepté de venir dans une émission nouvelle, animée par quelqu'un dont ce n'était pas le métier, le tout à leurs risques et périls. Même s'il y a eu des loupés, on va pas se mentir, j'ai toujours eu à cœur de m'intéresser à nos invités et à ce qui les intéresse. Et enfin, un petit bonjour à toute la famille Émergence, particulièrement Eric, bien sûr, que nous avons reçu, Aubin et Mathilde aussi, sans qui cette émission n'aurait pas vu le jour sous cette forme-là. Allez, entre vous et moi, 1000 auditeurs, 10 émissions, c'est pas mal. Je pourrais m'arrêter là, non? En plus, t'as fait un chiffre rond, c'est pas mal, non? Vous en pensez quoi, vous? Allez, répondez-nous sur notre compte Instagram, @openbys, openbays. Voilà, c'est tout pour ce petit discours, ce petit moment. Ça ressemble à un discours d'adieu, mais ça n'en est pas un. C'est essentiellement un discours de remerciement, d'interrogation pour la suite. Donnez-nous vos avis sur l'émission, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Je vous souhaite une très très belle soirée sur News FM et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures, ici ou ailleurs. Allez! Passez une bonne soirée, la musique continue sur News FM le 101.2, la musique que vous aimez.